Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de matinée. Merci de nous avoir rejoints en cette fin de matinée pour cette première session d'échange autour du beurre, la pâtisserie 100% pur beurre. D'ailleurs, est-ce que cette appellation existe toujours? Parce que dans les années 80-90, on voyait régulièrement inscrit sur les vitrines de pâtisserie, de boulangerie, croissant pur beurre. On dissociait le croissant à la margarine et le croissant pur beurre. Le beurre, y a-t-il autrement meilleur pour réaliser de la pâtisserie? Eh bien, c'est l'une des questions que nous allons nous poser avec nos deux intervenants. Voilà, la place du beurre. Et puis aussi, on va forcément s'interroger à une alternative au beurre. Peut-on réaliser de la pâtisserie autrement qu'avec du beurre? La réponse est oui. Et ce sont nos intervenants qui vont y répondre et expliquer comment est-ce qu'on peut faire et proposer une pâtisserie alternative. À ma droite, Bérénice Lecomte. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de la première pâtisserie vegan de France qui s'appelle VG Pâtisserie.
Oui, oui, c'est ça.
Installée dans le 11e arrondissement de Paris.
Oui.
Et à côté de vous, il y a Alexis Douin. Vous êtes propriétaire de la boulangerie Henri Guay à Lyon. Vous êtes boulanger tourier et vous représentez la quatrième génération, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Hein, d'une boulangerie créée en 1935.
Exactement.
Donc vous êtes, je dirais, dédié à la pâtisserie de manière naturelle?
Alors moi, c'est plus le tour,
oui, pardon, viennoiserie, enfin,
boulangerie.
À la boulangerie, oui, voilà. Au tour.
Mais effectivement, depuis 1935, on essaie de garder cette qualité et justement ces produits avec nos recettes 100% beurre. Et voilà, on évolue au fil du temps. Donc c'est intéressant aujourd'hui de trouver peut-être des alternatives parce qu'il y a quand même une clientèle qui recherche des produits vegan ou autres. Voilà.
Vous avez ce genre de demande dans une boulangerie conventionnelle? Vos clients ou certains clients franchissent votre porte et vous demandent si vous avez des pâtisseries véganes, par exemple?
Ah oui, complètement. Ouais. On a pas mal de demandes. On a eu pas mal de demandes. Après, les clients qui sont vraiment véganes, végétariens, vont directement dans des endroits spécifiques. Ils viennent pas, c'est comme les sans gluten, ils viennent pas dans des boulangeries conventionnelles ou autres, quoi. Ils le savent par définition qu'ils n'auront pas vraiment ce qu'ils veulent. Ou alors une petite gamme courte avec des choix qui ne sont pas très restreints.
Oui, ce sont des demandes un petit peu anecdotiques, ouais. Qui viennent périodiquement.
Il faut savoir faire. C'est comme la viennoiserie 100% beurre. Il faut savoir la faire vraiment correctement dans les règles de l'art. Donc on a tout. On a des très bien, des moyens. Et tout ce qui est vegan, on a essayé de mettre en place des choses, mais on n'est pas perfectionné. Enfin, on n'est pas au top.
Ouais, c'est une véritable technique, c'est une appropriation des matières premières, et on va le voir tout à l'heure avec Bérénice. Première question, puisqu'on évoque le beurre, la thématique de cet échange et le beurre, comment est-ce qu'on reconnaît un bon beurre? C'est quoi la qualité d'un bon beurre quand on est un professionnel comme vous?
Pour moi, un bon beurre, c'est... Donc déjà, nous, on utilise du beurre de tourage pour nos viennoiseries. Donc, qui a de la matière grasse, soit donc 82-84%, et on le complète avec de l'eau pour qu'on puisse avoir une plasticité de ce beurre et l'incorporer aux pâtes afin de faire des plis avec la pâte, le beurre, et c'est ce qui va créer en fait ce feuilletage. Donc, c'est la fusion du beurre qui va créer le développement avec la pâte, voilà, pour faire simple.
Mais quelle est la différence qu'on a? Vous parlez de beurre de 82-84%. Quand on l'entend, on se dit 2%. Qu'est-ce que ça change vraiment?
Ah oui, ça change beaucoup.
Ça change beaucoup.
Ouais, c'est la teneur en matière grasse. Donc il y a vraiment une différence sur les croissants où 82-84, déjà on le sent. Et visuellement, pour nous professionnels, on voit vraiment la différence. Après, des clients qui viennent acheter un croissant, à part ceux qui s'intéressent, ils y voient, mais... Pas vraiment.
Et hormis ce beurre de tourage, vous utilisez un beurre autre pour le reste des pâtisseries? Et est-ce que c'est un beurre fermier? Est-ce que vous le sélectionnez auprès d'une ferme? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous...
En fait, nous, on a voulu travailler avec des coopératives, avec un beurre, donc avec des fermiers, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont, ils sont limités en quantité. Donc, c'est soit on fait les choses bien avec 100% fermier, ou alors soit on travaille... avec des fournisseurs de matières premières. Mais avec les demandes qu'il y a, c'est pas possible. Donc, il faut faire des choix.
Et ce beurre, on le reconnaît comment? Quand est-ce qu'on sait que c'est un bon beurre? À l'odeur, à la couleur?
il y a déjà il y a la douleur, il y a tous les paramètres qui sont au niveau des sens, ou la couleur, le fait qu'il ne casse pas. Parce que des fois, vous avez des beurres qui vont se casser en plein de morceaux. C'est souvent un signe qu'ils ont été congelés ou il y a eu quelque chose qui n'a pas été dans la chaîne, ou voulu ou pas voulu. Et sinon, il y a la couleur, il y a le goût, forcément. Donc des fois, il y a des beurres qui ont un peu un goût noisette, suivant les différents beurres. Enfin, il y a des AOP, par exemple Poitou-Charentes, qui ont un goût un peu noisette. Il y a un bon goût de beurre déjà de base. Et le fait qu'il puisse avoir une plasticité et qu'on puisse se travailler dans une pâte, c'est vraiment la qualité première du beurre.
Vous êtes le lauréat du concours du meilleur croissant de France. Qu'est-ce qui distingue un croissant d'un autre? C'est quoi un excellent croissant?
Déjà, dans le concours, c'est le mot concours, déjà, il faut quand même... Enfin, je tiens à remettre, c'est le jour J, on est sur place, on a une farine qu'on ne connaît pas, on a des ingrédients qu'on ne connaît pas. Et c'est celui qui va s'adapter le mieux à l'ambiance, à la farine. Parce que la farine est une matière aussi qui vit tout le temps. Donc une farine au nord et au sud, c'est pas même la même, ce ne sera pas pareil au niveau qualité. Au niveau du beurre, par contre, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça ne bouge pas. Donc un beurre autre, Lescure, Montaigu, pour en citer quelques-uns, sera le même. Donc c'est le seul élément qu'on connaît, qu'on maîtrise. Voilà. Donc après, dans les concours, il y a plein de signes qui font que... Après, le résultat final, il faut quand même qu'on ait un feuilletage, un visuel très propre. Grâce au beurre, justement, un beau feuillet, une belle brillance, des belles alvéoles, ça, c'est la fermentation qui va faire ça. Et voilà, hein. Il y a une part de chance.
Non, c'est quoi une pâte à croissant? Comment est-ce qu'on la réalise, hein?
Alors, une pâte à croissant, chez moi, en tout cas, c'est la farine de force, avec un petit peu de farine de tradition, pour donner un peu plus de goût, parce que la farine de force a un goût un peu plus... une mâche un peu plus serrée, enfin comment dire.
Disons qu'elle est tellement raffinée, qu'on lui a enlevé un peu son essence. Donc, certes, elle a de la force, mais elle n'a plus beaucoup de goût.
Voilà. Donc, elle a un peu une mâche un peu costaud. Donc, en fait, moi, après, je mets un petit peu de beurre aussi, 10% de beurre. Donc, ça, c'est du beurre, du beurre de tourage. Ensuite, je mets simplement sel, sucre et puis de l'eau.
Voilà. Et ensuite, on tourne.
Après, c'est vraiment la fermentation qui va jouer sur les caractères. Du goût.
Ouais. Voilà. Et cette pâte, elle est tourée également?
Alors, on laisse cette pâte toute la nuit suivant. Moi, je la laisse toute la nuit au frigo jusqu'au lendemain. Et le lendemain, je récupère donc une pâte qui n'a pas trop fermenté non plus. Et ensuite, je viens tourer donc, avec du beurre de tourage.
Combien de tours pour le croissant?
Alors, il n'y a pas de règle. Moi, je fais un tour double, un tour simple. Voilà. Donc, c'est bon compromis en général pour ne pas trop écraser les feuillets. Ouais. Il y en a qui font deux tours simples, il y en a qui font... C'est ça qui est bien aussi chez nous, chez les artisans, c'est que il y a pas de règles en fait. Le pétrissage, la farine, ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, tant que ça sort bien. Et tant que notre clientèle est contente du produit, c'est l'essentiel.
Plus on fait de tours et plus on aura de grandes alvéoles, c'est ça?
Non, plus on fait de tours et plus on va écraser le feuilletage.
Ok, donc moins on fait de tours et plus on aura de grandes alvéoles.
Ouais.
Ok. Et alors, donc je repose ma question, parce que vous n'y avez pas répondu. C'est quoi le critère d'un bon croissant pour vous? Qu'est-ce que c'est un bon croissant?
Un bon croissant, il faut déjà qu'il soit, pour moi, friable, c'est-à-dire quand on le prend, ça croustille.
Ça croustille.
Un bel alvéolage, quand on le coupe au milieu, on regarde, il y a des nids d'abeilles, comme on dit. Une bonne odeur. Et après, c'est le goût. Hein. Ouais. Voilà. Le goût de beurre. Alors chez moi, ils sont pas trop... Enfin, je ne mets pas trop de beurre. C'est-à-dire que la particularité, c'est que j'ai un dosage où ce n'est pas gras vraiment, où on le pose sur une serviette et on a une grosse trace de beurre. Donc, pour moi, il ne faut pas mettre trop de beurre non plus. Il y a une tendance aussi aujourd'hui où on mange un peu moins sucré, un peu moins beurré. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est aussi là pour trouver des alternatives. C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Ouais. On fait tous attention à notre ligne. Ouais. Et quand on mange un croissant, ça attise d'en manger deux.
Donc vous avez un peu réduit, je dirais, la dose de beurre.
On a toujours un croissant pas trop beurré.
Okay. Pour le pain au chocolat aussi, j'imagine?
Ouais, c'est la même pâte. Hein. Nous, on garde la même pâte entre le croissant et pain au chocolat, pain au raisin aussi. Ouais. En fait, toute la base de la pâte à croissant, elle décline après à travers plein de goûts, en fait, pain au raisin, tout ce que vous voulez.
Ok, Béronice Lecomte, vous faites aussi de la viennoiserie dans chez
Oui, oui, nous on fait de la viennoiserie, ouais, bien entendu. Ça a été vraiment un des produits que cherchaient les clients quand ils sont venus chez nous, quand on a ouvert il y a bientôt 8 ans. parce que bah, la pâtisserie et les viennoiseries vegan, ça n'existait pas. Et ce qui est sympa avec le vegan, c'est que ça regroupe aussi beaucoup de choses. Les personnes qui ont des allergies aux œufs, les personnes qui ont des allergies aux produits laitiers. Nous, on a des enfants, par exemple, qui viennent, qui ont des allergies aux œufs et qui n'ont jamais mangé de pain au chocolat de leur vie. Et c'est la première fois. Donc ça, c'est vraiment touchant. Et donc oui, oui, ça marche très, très bien, les viennoiseries.
Quelle réaction est-ce que vous avez, quel accueil avez-vous eu il y a 8 ans? Parce que ça paraît, je dirais hier, mais il y a 8 ans, le vegan...
Accueil encore... mitigé, ouais. De la part surtout des professionnels, de mes confrères, certains qui ne voyaient pas pourquoi, en fait, j'ouvrais une pâtisserie vegan, alors que maintenant, la pâtisserie vegan, même les plus grands chefs en font. Parce que y a une réelle demande et comme je disais, ça regroupe aussi beaucoup d'intolérances et d'allergies. Et puis bon, pour moi, c'est une pâtisserie aussi du futur parce que on prend en compte les enjeux de l'environnement. Et pâtisserie végane, ça veut dire aussi que par exemple tous nos emballages sont compostables. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion autour de la pâtisserie en plus.
Oui, c'est une véritable philosophie.
Ouais, on essaye de bien faire. Alors bien sûr, les pâtisseries au beurre. Enfin voilà, c'est mon conjoint est breton. Si j'enlève le beurre, je pense que c'est fini, quoi. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas en manger, et on répond aussi à ce problème-là, quoi.
Quel est votre parcours? Vous êtes issu d'une formation de boulangerie ou vous êtes à un moment donné reconverti avec cette volonté de créer
Oui. Alors moi, j'ai une formation d'ingénieur en agro-santé. Et après, en fait, j'ai fait une reconversion en CAP pâtissier à l'EBP de Paris. Voilà.
Avec cet objectif d'ouvrir
Avec cet objectif
vegan.
Je ne savais pas trop, mais en fait, j'ai été diagnostiquée intolérante aux produits laitiers et je voulais faire quelque chose de différent. Au début, je me suis dit pourquoi pas retourner vers la R&D. Et en fait, à l'EBP, quand j'ai découvert ce milieu de la pâtisserie, je me suis dit que... En fait, il y avait quelque chose à faire et que ouais, c'était intéressant d'avoir cette nouvelle vision parce qu'il n'y avait vraiment aucun établissement qui existait. Et de travailler, en fait, c'est beaucoup de R&D à la maison pour pouvoir créer après.
Alors, si les professionnels ont été un peu sceptiques à votre ouverture, est-ce que les clients et notamment les gens du quartier ont assez facilement poussé votre porte pour découvrir ce que vous proposiez?
Oui, oui, on a eu un très bon accueil de la part du quartier et même encore à l'heure actuelle, on a des voisins qui descendent en pyjama le week-end pour prendre leur viennoiserie et remonter, qui ne sont pas forcément véganes, mais qui trouvent que c'est quand même assez quali. Donc on a toujours un bon accueil. Puis bon, on a une boulangerie, mais je suis passée de 2 collaborateurs à 11, donc bon, on est... voilà, mais juste un établissement, c'est bien.
Oui, c'est déjà bien,
ouais.
C'est déjà bien géré.
À gérer.
Comment se sont passés les débuts? Et là, je pense notamment aux produits de substitution. Et peut-être avant cela, quelle démarche avez-vous eue? Avez-vous tenté de reproduire ce qui existait? Ou est-ce que vous avez directement créé une gamme dédiée à ce que vous vouliez proposer?
Déjà, on voit qu'au niveau des matières premières, ça a beaucoup évolué en 8 ans. Là, on le voit dans le salon, il y a de plus en plus de produits vegan qui sont proposés. Donc le sourcing des matières premières aussi, ça a été vraiment important, notamment au niveau de la margarine, parce que qui va remplacer le beurre, parce qu'une margarine, ça veut tout rien dire en France, c'est qu'on a des margarines qui sont 100% végétales, il y en a d'autres qui ont du bas beurre dedans, et même au niveau de la composition, comme vous l'avez dit, au niveau du taux de matière grasse des margarines, on a du 80, du 82 ou du 85%, et après on a des margarines où il n'y a que 69% de matière grasse, donc ça ne va pas fonctionner, parce qu'au niveau texture... Ça va pas le faire. Et donc, voilà, un bon sourcing, quoi.
Alexis Louine, vous avez déjà tenté un croissant à la margarine? Parce que vous souriez, je vous vois sourire.
Si, si. Alors, on a essayé. En fait, il y a une demande. On a voulu essayer. Et c'est vrai qu'on a commandé de la margarine sans connaître, en fait. Donc, on a demandé de la margarine. Et c'était pas un désastre. Enfin...
Après, en plus,
ça
au niveau...
Se cassait,
oui, horrible, voilà, quoi. C'est ça. Et puis, au niveau des margarines, en fait, ça veut dire mélange d'huile. Donc, vous pouvez avoir que du 100% palme. Donc, vous allez avoir une margarine super dure. Mais au niveau du goût, c'est infect.
Ouais.
Et après, vous avez des margarines avec des saveurs aussi dedans. Par exemple, je vois Vandermotte qui font des margarines de tourage saveur croissant. Donc, il y a une saveur dedans. Donc, ça se rapproche.
Une margarine saveur croissant.
Ouais, voilà. Après, il y en a qui rajoutent de l'huile de noisette pour avoir aussi un petit goût. Donc, en fait, il y en a plein. Et puis, il y en a qui ont goût de plastique, vraiment, qui sont vraiment infectes, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Et oui, c'est sûr que...
La margarine reste le seul ersatz de beurre. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul substitut. Il n'y a pas d'autres matières grasses que l'on peut utiliser.
Bien entendu, on a les huiles, par exemple, dans les cakes. Alors, ce qui est sympa avec les huiles, soit une huile... avec un goût assez neutre comme l'huile de tournesol. Mais nous, par exemple, dans nos madeleines, on utilise aussi l'huile de noisette qui apporte aussi un petit côté. Ça, c'est assez sympa. On peut utiliser l'huile de sésame si jamais on veut faire des cakes avec un petit goût. Et après, vous avez aussi les purées d'oléagineux qui sont hyper intéressants. Alors, les purées d'oléagineux sont très riches. Après, d'un point de vue nutritionnel aussi, c'est assez intéressant pour les fibres et les protéines. Mais ce qu'il faut faire attention pour les purées d'oléagineuses, c'est que comme c'est beaucoup plus compact, ça ne va pas substituer le beurre. Il faudra surtout délayer à une boisson végétale ou autre. Mais les purées d'oléagineux aussi, ce qui est un peu contrariant, c'est qu'au niveau des allergies. C'est qu'on ne peut pas en mettre partout parce que les clients ont des allergies. Et si on met la purée d'amande partout, malheureusement...
Est-ce que vous avez senti, depuis l'ouverture en 8 ans, une progression des gens sensibles et allergiques ou intolérants aux oléagineux, aux œufs
Nous, on a toujours eu une clientèle d'allergies. Je ne sais pas si vous en avez aussi.
On en a oui,
c'est peut-être
de plus
Alexis Douin qu'on doit poser la question. Effectivement, sur une boulangerie, vous avez cette demande-là de plus en plus.
On a eu la grosse tendance... Enfin, pas tendance, parce qu'il y en a qui sont vraiment allergiques.
Je vois ce que vous voulez dire. On a eu cette tendance, parce qu'il y a eu une véritable
tendance. Alors, il y en a qui sont vraiment allergiques. Il y en a le problème qui alors, c'est pas pour critiquer, mais c'est vrai qu'il y a des pains dans les grandes surfaces, par exemple, qui font du pain en une journée. Et du coup, si vous voulez, le gluten n'a pas le temps d'être assimilé, enfin, dégradé correctement. Donc, quand on le mange, on a des gonflements de ventre, on a mal au ventre. Et ça, c'est une vérité. Donc, nous, vu qu'on fait notre pain sur 2 ou 3 jours, ça a le temps de se dégrader correctement et on sera pas intolérant. Donc, il y a une confusion entre, on va dire, les grandes surfaces et les artisans qui a fait que les clients pensaient qu'ils étaient intolérants au gluten.
Il y a surtout une confusion dans l'approche du gluten, même si ce n'est pas notre sujet ce matin.
Gluten, ouais.
C'est vrai qu'il y a les malades cœliaques donc, qui, eux, ne peuvent pas en manger parce que c'est délétère pour leur organisme. Et puis, il y a les gens qui, comme vous et moi, peuvent être sensibles au mauvais pain, savoir un pain rapidement fait, avec de la levure, avec une farine de piètre qualité. En revanche, vous êtes de plus en plus d'artisans à reprendre le temps de la fermentation, du pétrissage et de ce fait à offrir à vos clients un pain qui soit beaucoup plus digeste par essence.
C'est une de nos seules forces presque, la différence.
On en revient à cette margarine. On a parlé d'huile de palme tout à l'heure et je crois que c'est un sujet sur lequel vous travaillez parce que c'est vrai que l'huile de palme n'a quand même pas très bonne presse, même si elle rend beaucoup service en rhéologie de pâtisserie. Vous êtes en train de travailler là-dessus.
Pour la margarine de tourage, parce que c'est vrai qu'une margarine, même dans le commerce, même si elle est empaquetée en carré, elles font la température de fusion, elle est quand même assez basse. Donc là, nous, le seul produit en margarine de tourage qu'on a, donc c'est la marque Vandermolt. Et effectivement, il y a de l'huile de palme dedans pour avoir une texture assez souple et surtout une température de fusion assez haute qui ne fond pas pendant qu'on le tourne aussi avec les viennoiseries. Et il y a des marques qui travaillent là-dessus, justement, pour trouver des substituts de margarine de tourage sans huile de palme. Mais après, c'est comme tous nos produits abusifs. Par exemple, l'huile de coco, c'est pareil. Au niveau de la récolte, ce n'est pas super éthique. Mais ça, malheureusement, c'est les monoproduits. Donc, notre margarine de pâtisserie lambda, 82% de matière grasse. On utilise une margarine Bibetter, par exemple, où il n'y a pas d'huile de palme dedans, la Vita Coco, où c'est à base de coco et d'autres karités, etc., où il n'y a pas d'huile de palme dedans. Mais c'est vrai que pour le tourage, malheureusement, c'est encore un ingrédient qui est assez essentiel.
Parce qu'on a, moi qui lis parfois les étiquettes, on a la copra, la coco,
karité. Tournesol.
On sait ce que ça vaut, je dirais, au niveau impact santé.
Vous avez un mélange en fait de graisses insaturées et de graisses saturées. Les graisses saturées, c'est toutes les huiles qui sont solides à température ambiante, donc la coco, le palm. Et après, si vous utilisez des margarines, il y a toujours un peu de coco. Donc pour qu'elle soit solide, de toute manière, on est obligé, sinon ça serait de l'huile.
Bien sûr. Ouais.
Mais après, au niveau santé, la margarine, il y a plus de graisses insaturées, donc c'est un peu meilleur pour la santé que le beurre. Mais Après, quand on mange un croissant, on pense pas santé, quoi. On pense.
Oui, on pense plaisir.
Plaisir. Ouais.
Non, mais non, oui, on mange pas de croissant.
Non, mais je crois que, oui, non, mais je crois que c'est l'intérêt. D'ailleurs, ce qui est plaisant lorsqu'on vous entend évoquer ces gens qui viennent encore en pyjama chercher le croissant le dimanche matin, c'est vrai que c'est chouette, ces traditions, il faut les conserver parce que c'est un véritable savoir-faire et c'est pas vous qui allez nous contredire. Il y a le geste et puis il y a quelque chose de beau, d'appétant. Rentrer dans une boulangerie qui sent le pain chaud et les croissants qui sont sortis à 2 heures du four, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est vrai.
Effectivement.
Comment a évolué votre métier, Bérénice, depuis l'ouverture? Est-ce que votre gamme a évolué? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites au départ que vous ne faites plus? Est-ce qu'il y a encore des choses, des pâtisseries que vous n'arrivez pas à réaliser?
Alors nous, notre gamme, oui, on a évolué. Parce que on est passé de 2 à 11, donc on a pu faire plus de choses. Après, au niveau, moi, je suis plus du côté tour, donc je m'amuse plus au niveau des viennoiseries avec, par exemple, les rolls ou les croissants cubes. Je ne sais pas si vous en faites.
Ici, ouais,
truc tendance, ouais. Quoi, qui ramène un peu des clients nouveaux. Parce qu'on a une clientèle assez régulière, donc ils s'ennuient un peu. Et c'est vrai que quand on voit des choses fun sur les réseaux sociaux, ça fait de la com, donc on essaye d'en faire aussi. Et en vegan, ça marche aussi. Donc, ouais. En fait. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on fait toujours la même chose, entre guillemets, mais en fait, on ne fait pas vraiment toujours la même chose parce qu'il y a plein de nouveautés et on s'amuse un peu à faire des créations, comme les boulangers traditionnels qui utilisent du beurre. Donc, après, on a développé aussi la partie salée, mais surtout, on travaille beaucoup avec les hôtels et les palaces. Par exemple, là, pour les JO, ils vont avoir beaucoup de touristes véganes, donc avoir une option dans leur petit déjeuner... et puis.
Donc vous avez réussi à développer au fur et à mesure des années cette relation B2B,
oui, voilà,
avec les hôtels et restaurants. Et c'est vrai parce que c'est un véritable savoir-faire. Hein. Alexis Dwin l'avouait tout à l'heure, c'est deux métiers différents. Ouais. On se transpose pas tout d'un coup du jour au lendemain en pâtissier vegan sans avoir apprivoisé la matière. Parce que je pense que c'est vraiment ce travail-là. On apprivoise la matière pour voir comment elle se comporte et comment est-ce qu'on va réaliser ce que l'on a toujours connu.
Oui, c'est ça. On a beaucoup de commerciaux qui viennent aussi avec des nouvelles margarines, comme vous pouvez avoir avec des nouveaux beurres. Et c'est vrai que des fois, on se rend compte que c'est un peu la cata, quoi. Que pareil, les margarines, elles se cassent. Quand on les passe et qu'on essaye le tourage, ça casse. Donc, c'est un peu problématique. Mais c'est...
Sur le temps, quelles sont vos meilleures ventes? Qu'est-ce que les gens viennent...
Oui, nous, c'est le cake noisette. C'est un cake avec de la poudre de noisette et une couverture noisette. Ça, c'est vraiment le best. Et après, le croissant, c'est... Ça se vend, c'est ce qui se vend le plus, mais le croissant, c'est... Ouais.
Et vous, Alexis Dwin, les meilleures ventes, qu'est-ce qu'on...
Nous, c'est le croissant.
Le croissant. Vous faites aussi ce que les pâtissiers appellent depuis quelques temps des gâteaux de voyage?
Ah oui, on fait des cakes, on fait, bien sûr.
4 quarts.
4 quarts, cakes...
Je ne sais pas si le 4 quarts se fait toujours...
C'est le truc, on va dire, classique, mais ça, c'est un peu des pâtisseries qu'on fait à la maison.
Le marbré a toujours le vent en poupe, ça ne se dément pas.
Après, on essaie de développer... l'idée, c'est de faire quand même des choses que les clients... des choses simples qu'ils aiment acheter tous les matins. Ouais. Mais puis même aujourd'hui, le personnel, ils veulent quand même faire des choses qui les mettent un peu en valeur. Ils sont contents de... Ouais. Par exemple, en viennoiserie, on a une gamme de croissants pas en chocolat, mais on fait énormément de... On appelle ça des cooks, nous, dans le métier, des pliages de pâtes pour après mettre une crème ou des petits gâteaux, des moelleux au chocolat, des choses comme ça.
C'est ça
qui les passionne un peu.
Dans un cake, par exemple, le beurre, quel est l'apport du beurre?
Nous, c'est toujours le goût, en fait.
C'est le goût.
On le fait noisette. Donc, en fait, en général, on le... Ouais, ça va pas plaire. Nous, on le fait caraméliser un peu, il devient un goût noisette.
Ouais.
Donc, en fait, c'est ce côté-là qui va typer. Et après, suivant la farine qu'on va mettre... C'est toujours pareil, en fait, les farines, on peut mettre du petit épeautre, on peut mettre des farines un peu... En fait, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, on peut le réaliser, parce qu'on a tellement de produits qui sont possibles à apporter des goûts différents que c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Il n'y a pas de règles, sauf qu'il faut prendre le temps de le faire correctement.
Mais ce beurre, il apporte le goût, mais il joue
aussi la conservation, ça va figer un peu plus, quoi.
Question.
Il y a plusieurs critères sur le beurre. Ouais. Il y a
question claire. Ouais, si on utilise une huile et du beurre, on a sur une même proportion de sucre de farine, il se passera quoi? Un cake à l'huile et un.
Je pense qu'il faut réadapter la recette. Je sais pas. Enfin, nous, on fait aussi des cakes avec de l'huile, souvent. Donc.
Et on peut pas transposer immédiatement quantité d'huile, quantité de beurre.
Si on change un élément, il faut réadapter la recette. Ouais. S'il y a 200 grammes d'huile pour 200 grammes de beurre, est-ce qu'il y a le petit lait qui... Je ne sais pas. Enfin, pas
l'huile, là-dedans, ouais. C'est 100% du gras, alors voilà. Que votre beurre, vous avez 80...
Il y a un peu d'eau.
Ouais, ouais,
il reste en eau.
Il ouais, faudra un peu le délayer, en gros. Ça, avec, faudra...
À la cuisson, ça va certainement s'évaporer, puis sécher. Enfin...
Enfin, nous, ce qu'on a vu, c'est par exemple en pâtisserie vegan, les cuissons sont plus longues.
Okay. Voilà.
Parce que bah, nous, on n'a pas les œufs non plus, donc oui. Qui assèchent quand même les produits oui. Des fois et qui permettent aussi d'avoir une bonne texture. Donc nous, on a une cuisson aussi qui est beaucoup plus longue. Mais après, il faut adapter les recettes. Ouais, c'est...
Et en matière de tarte ?
De
tarte, les, ouais. Les fonds. Tarte ouais, brisée, c'est... tarte sablée.
Enfin, hein. Les...
Oui, justement, mais...
nous, c'est du beurre. Bah, nous,
qu'est-ce
le,
que
le beurre,
comme
c'est du
conseil,
goût.
Comment comment est-ce qu'on travaille le beurre dans une pâte à tarte ? Est-ce qu'on le travaille pommade ? Est-ce qu'on le travaille sorti du réfrigérateur ?
Non.
Est-ce qu'on...
Nous, on le fait... on le travaille à température pas trop dure, pas trop mou, et on le sable. Donc, nous, on n'a pas de beurre pommade dans tout ça.
Quoi. Non, ça vous n'aurez...
Non.
Donc, vous, ouais, vous sablez, puis ensuite, vous rajoutez...
Le beurre pommade, nous, on le fait, par exemple, pour la frangipane, des choses comme ça, des crèmes, plus les crèmes. Mais pour tout ce qui est pâte, en général, on le met dans le sucre. Et on le fait tourner, ça fait, ça fait du sablage.
Ouais.
Après, on incorpore le reste, hein, des œufs, ouais. Suivant la recette.
Ouais. Crème
et le beurre, c'est vrai que c'est un élément qui a plein de. Voilà, il peut être mou, il peut être dur, il peut être en beurre de tourage avec un peu plus de beurre. C'est pas le même beurre, hein, le beurre de tourage et le beurre en botte. Voilà.
On l'a évoqué
donc,
tout à l'heure.
Voilà.
Et le beurre qu'on rajoute à la crème pâtissière, quel est son rôle ?
La crème pâtissière ?
Oui. Souvent, on rajoute un peu de beurre dans la crème pâtissière.
Moi, j'en mets pas.
Vous en mettez pas du
ouais.
Tout. Parce qu'il y a beaucoup de recettes avec.
Ouais, peut-être. Ouais, nous, on en met un peu dans le.
Crème citron.
Dans la crème citron, voilà.
Ah,
dans la crème citron à la fin
là, on
de la
préparation. Quantité colossale de beurre. Hein.
Ouais, voilà. Bah, je pense que. Bah, moi, je suis pas pâtissier. Je pense qu'il est là pour apporter forcément du goût.
Ouais.
Puis adoucir un peu la crème. Ouais. Et puis la conservation, puis l'onctuosité. Enfin. Ouais.
On va proposer au public présent de poser les questions. Ah. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités de ce matin concernant le beurre ou concernant, je dirais, l'approche végane de Bérénice, si vous le souhaitez. Pas de questions ? Vous êtes sûr ? C'est votre dernier mot ? Parfait. Alors, je vous invite à applaudir nos deux invités de ce matin. Bérénice Lecomte, fondatrice de VG Pâtisserie à Paris, dans le 11e arrondissement. Et Alexis Louine, boulangerie Henriet à Lyon. Quel arrondissement ?
Au 5e.
Voilà, 5e arrondissement, si vous passez par Lyon. Et dans un instant, nous allons poursuivre cette matinée en parlant boulangerie. Donc, on va rester dans votre domaine. On va parler des nouveaux, je dirais, des nouveaux boulangers, des néo-boulangers, de l'approche, des différentes approches que l'on a de ce commerce, puisque c'est un commerce en mutation, la boulangerie. À tout de suite.